Lors de la précédente séance, nous avons parlé du péché. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la miséricorde et du pardon. Dans un premier temps, nous verrons que le pardon est un don gracieux. Puis nous évoquerons le pardon de Dieu dans la Bible. Enfin, nous approfondirons deux exemples, tirés de la Bible, la femme adultère et l'enfant prodigue. Premier point. Le pardon, un don gracieux qui ouvre un avenir. Le Larousse donne la définition suivante du pardon. Fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, rémission d'une offense. Le Notre Père d'autrefois parlait de remise d'une dette. Remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi à ceux qui nous doivent. Lorsque nous commettons une faute, nous sommes débiteurs à l'égard de l'offensé. Dans le cas d'un mensonge, nous devons la vérité. Dans le cas d'un vol, nous devons le bien volé. Dans le cas d'un adultère, nous devons la fidélité. Dans le cas d'un crime, nous devons la vie. Dans ces deux derniers exemples, nous constatons une impossibilité. La gravité de la faute nous fait prendre conscience que nous ne pourrons jamais restaurer le passé tel qu'il était avant la faute. Nous sommes insolvables. Certaines conséquences sont irréversibles. Ainsi, il est impossible d'effacer de la mémoire une infidélité ou de rendre la vie. Le pardon se situe à un autre niveau que la restauration littérale d'un passé ou le paiement d'une dette. Soulignons aussi que le pardon n'est pas d'ordre juridique et ne supprime pas les éventuelles condamnations civiles et pénales. Le pardon n'est pas non plus de l'ordre de l'oubli. Le pardon ouvre un avenir en proposant une voie de guérison intérieure au regard de la culpabilité ou de la vengeance. Cet acte exige un temps à la mesure de la gravité de la faute et de ses conséquences. Un pardon qu'il n'est pas possible de donner aujourd'hui le sera peut-être demain. Poser sa main sur une blessure trop vive provoque le réflexe tout à fait humain de se retirer afin de se protéger de la douleur. Le pardon est dépassement de la faute pour s'intéresser à la personne. On ne pardonne pas la faute, on pardonne la personne. Lorsque le pardon aboutit suite à une faute, autant l'acte est condamnable, autant la personne est pardonnée. Le pardon ne signifie pas que nous éliminons les conséquences de la faute dans la vie des gens. Elle signifie que nous les aidons à traverser les conséquences afin qu'ils puissent marcher sur la voie de la guérison. Ainsi, le pardon prend date dans l'histoire de chacun. Je voudrais citer ici Vladimir Yankelevitch. Le vrai pardon est un événement daté qui advient à tel instant du devenir historique. Le vrai pardon, en marge de toute légalité, est un don gracieux de l'offensé à l'offenseur. Le vrai pardon est un rapport personnel avec quelqu'un. Le remords est un soliloque, mais le pardon est un dialogue entre deux partenaires dont l'un attend quelque chose de l'autre. Le pardon est donc une voie de salut. Alors comment la Bible nous parle-t-elle de cette voie ? Deuxième point, le pardon de Dieu. Dans une perspective religieuse, le pardon renvoie à l'initiative de Dieu qui fait miséricorde et recrée une relation nouvelle. La demande de pardon est une prière d'abandon. Nous y sollicitons la miséricorde de Dieu. Le qualificatif miséricordieux désigne tout à la fois la compassion, le pardon et la relation fidèle. L'hébreu utilise le mot rahaim pour parler de la miséricorde. C'est un pluriel qui signifie entrailles, nous l'avons déjà vu. Les Hébreux considéraient que les entrailles sont le siège des sentiments et des émotions. La miséricorde apparaît alors comme l'attachement d'un être à un autre et surtout l'attachement qui unit Dieu à l'être humain, comme si ses entrailles frémissaient en pensant à l'homme, comme si les entrailles de Dieu frémissaient en pensant à l'homme. Ainsi Dieu s'émeut avec tendresse comme un père ou une mère à l'égard de ses enfants. Un terme accompagne souvent la miséricorde, c'est Hesed. Il s'agit de la relation qui unit deux personnes et implique la fidélité et l'obligation de venir en aide. La personne qui agit avec miséricorde témoigne alors d'une grande fidélité à la relation qui l'unit à quelqu'un d'autre. Il en est ainsi de la miséricorde de Dieu. Dieu se montre miséricordieux dans une démesure qui dépasse notre humanité pécheresse. Nos péchés ne représentent que des gouttes d'eau face à un immense brasier ardent. Elles s'évaporent instantanément au contact du feu de Dieu. Cette puissance de pardon ne s'éteint jamais. La miséricorde est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde, nous dit Thomas d'Aquin. Inlassablement, Dieu pardonne nos péchés et prend plaisir à agir de la sorte. Je cite le psaume 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Je cite Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dans le Nouveau Testament, Jésus appelle à la conversion pour accueillir la bonne nouvelle du royaume et du pardon. Jésus va au-devant des pécheurs. Il pardonne sans porter de jugement aux paralytiques, à la femme pécheresse, à la femme adultère, à Zachée. Il montre la miséricorde divine par les paraboles de la brebis perdue et du fils prodigue. Agonisant sur la croix, Jésus donne un dernier message de pardon à ses bourreaux. Je cite Luc 23, 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus meurt sur la croix en montrant qu'il est possible d'aimer par-delà la violence et l'injustice. Jésus montre que le pardon s'étend au-delà de l'excusable, du raisonnable et du compréhensible. Jésus rend le bien pour le mal. Il accepte les pires humiliations sans jamais haïr ni maudire. Jésus met ouvertement le doigt sur les contradictions du discours religieux officiel, en montrant que la loi de l'amour dépasse tout discours législatif. Et nous, combien de fois devons-nous pardonner? Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, Matthieu 18, 22. En d'autres termes, nous devons pardonner indéfiniment, même si la loi nous donne raison pour accuser l'autre. Prenons deux exemples bibliques pour illustrer les différents thèmes que nous avons déjà vus, à savoir la liberté, le péché et le pardon. Alors, tout d'abord, la femme adultère. Rappelons que dans la loi de Moïse, la femme adultère est passible de lapidation. L'homme aussi d'ailleurs, mais au sein d'une société à domination masculine, la sentence à l'égard du mâle ne se rencontre que peu d'écho. Jésus, à qui les hommes amènent une femme adultère, se contente dans un premier temps d'écrire des mots sur le sol, sans enquête et sans jugement. Il ne regarde même pas la femme pour ne pas l'accuser, pour ne pas l'humilier. Comme le souligne le livre de la Sagesse, Dieu ferme les yeux sur nos péchés pour que nous nous repentions. Sagesse 11, verset 23. Les écrits de Jésus sur le sol, au-delà du contenu dont nous ignorons tout, symbolisent le respect de cette femme. Jésus ne cherche pas à connaître les raisons de son péché, car la justice de Dieu n'est pas dans la comptabilisation des bonnes et mauvaises actions, ni dans la justification de sa conduite. Jésus s'adresse ensuite à ses accusateurs. Que celui de vous, qui est son péché, jette la première pierre contre elle. Jésus poursuit son écriture sur le sol, le temps que sa parole mûrisse dans le cœur de ceux qui l'entourent. Les détracteurs sont renvoyés à leur propre jugement. Ils quittent finalement la scène, un à un, en commençant par les plus vieux, sans doute parce qu'ils ont plus de choses à se reprocher, ou parce qu'ils sont plus aptes à voir leur faute. Puis Jésus s'adresse à la femme adultère dans un face-à-face sans vérité. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quelle image de Dieu aurait donné Jésus s'il avait condamné cette femme ? Un Dieu soumis à la loi ? Jésus offre à cette femme la grâce d'être aimée malgré son péché. Il lui rend sa dignité de femme. Il la libère du poids de son péché. Il lui rend la vie. Ce texte symbolise la mort-résurrection. Notons que Jésus s'est relevé, après avoir écrit, pour s'adresser à la femme. De même, il va relever la femme, la sauver de la mort. Jésus nous apprend que la justice de Dieu est plus forte que la loi, que les mots de la vie sont plus puissants que les pierres de la mort. Jésus nous rend justes. Il nous justifie. Jésus vient pour nous sauver et non pas pour nous juger. Jean 3, 17. Deuxième exemple biblique, la parabole de l'enfant prodigue. C'est en Luc 15. Cette parabole retrace tout le processus du péché, pardon, réconciliation. Tout commence par une décision de l'enfant qui veut sa part d'héritage. Le fils rêve de liberté. Cette liberté le conduit vers la débauche. Puis viennent les conséquences, à savoir la privation et la famine. Le fils perd sa liberté. Il n'échappe pas à l'orgueil, car dans un premier temps, il veut s'en sortir par ses propres forces. Mais finalement, il prend conscience de son enfermement et de sa faute, et il prend la décision de se convertir. Conversion qui s'exprime par un retour vers son père. Je cite. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Son père l'aperçoit et, pris de pitié, se jette à son cou et l'embrasse. Il ne pose aucune question, ne prononce aucun jugement ni condamnation. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. La joie des retrouvailles l'emporte sur tous les discours. Le père aurait toutes les raisons de faire des reproches à son fils, voire de le rejeter, car celui-ci a dilapidé son héritage dans la débauche. Mais il préfère montrer que la rancœur ne saurait guérir les blessures, que l'amour est plus fort que la mort. Il redonne à son fils une chance de se relever pour qu'il retrouve précisément sa place de fils. Celui qui était mort est revenu à la vie. Le festin scelle la réconciliation. Cette parabole montre que la puissance de Dieu se déploie dans l'attente bienveillante et la miséricorde. Sa discrétion est à la mesure de sa puissance. Il fallait que Dieu se tienne en retrait pour que le Fils se convertisse librement et découvre l'amour d'un Père miséricordieux. En conclusion, le pardon fait renaître. Il vient chercher le pécheur dans la mort afin de le relever. Le pardon inaugure une nouvelle naissance. Il permet de briser les chaînes du passé et de garder l'avenir ouvert. Le pardon est un acte créateur d'une nouveauté radicale, une forme de mort-résurrection. Je cite Daniel Marghera. Le pardon est la concrétisation ordinaire de la résurrection au sein des relations humaines. Elle est cette effraction qui atteste la délivrance de l'enfermement, la suprématie de l'espoir sur la méfiance, la victoire de la confiance sur la peur. Je vous remercie de votre attention.